Marhaba bikoum fi Zanzana, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nos invités sont à Ternam. Alors, avant de les inviter à nous rejoindre sur le plateau, un petit mot donc sur le groupe à Ternam. Alors, à Ternam, voilà, je vais mettre ça en grand. À Ternam, c'est Achraf Aloudéry au chant et à la guitare, c'est Antoine Guertin à la batterie, percussion, chant et au niveau des samples. Maxime Boucher à la basse et au chant. Les albums d'Aternam, je rappelle donc en 2010, Disciples of the Unseen. 2012, l'album Moon God. En 2017, l'album Runes of Empire. Et puis l'album Al Qasam qui est sorti en 2020. Voilà, donc à Ternam, sans nos invités, Antoine et Achraf, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à toi de nous avoir invités.
Salut.
Ouais, welcome. Alors, Achraf, donc, l'histoire, on va la répéter un petit peu, hein, donc, puisque c'est la première fois. Je crois que vous avez la possibilité de parler avec le public tunisien, mais bon, j'ouvre une parenthèse, c'est que j'ai partagé dans les forums métal du Maroc, d'Algérie, voilà, donc j'espère véritablement que tous les fans du Maghreb sont là aujourd'hui pour pouvoir, voilà, c'est l'occasion de discuter et de poser toutes vos questions sur les différents chats, hein, donc vous pouvez saisir vos questions et puis je poserai les questions en direct, on les verra d'ailleurs à l'écran. Donc, à l'origine, je vais commencer avec Achraf, si tu permets Antoine. Donc toi, tu es marocain. Oui. Donc voilà, tu es marocain et puis tu es parti, tu as vécu à Meknès, tu as découvert le métal à Meknès et c'est-à-dire que tu as même monté un groupe à l'époque, c'était au début, dans les années 2000 je pense.
Oui.
Et voilà, et ton groupe a même joué au boulevard.
Exact. Exactement, en fait. Quand j'étais à Meknès, moi j'ai grandi dans une famille plutôt ouverte, plutôt occidentalisée. C'est ça. Et ensuite, en fait, à l'âge de 12-13 ans, en fait, ce qui est arrivé, c'est que mon frère, lui, qui était à l'armée de l'air, il étudiait là-bas, et il revenait, en fait, il était à Marrakech et il revenait à Meknès avec des CD. Ben, voilà, à l'époque, c'était plus des cassettes. Donc moi à l'époque j'écoutais de la pop comme tous les enfants du Maroc quoi. Et après bon il m'a fait découvrir des cassettes de Metallica, de Paradise Lost, de choses comme ça. Et j'ai vraiment je suis tombé en amour avec cette musique-là. Et avec le temps en fait plutôt vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé il y a un de mes amis qui s'est acheté une guitare. Alors, en fait, il a commencé à jouer et tout, puis, excusez-moi, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'instrument. Et c'est ça, en fait, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'acheter une guitare pour pratiquer et tout, mais ils ne pensaient pas que j'allais vraiment commencer à jouer vraiment souvent. Donc, on avait une guitare de décoration que mon père avait achetée il y a très, très longtemps en Espagne. C'est une toute petite guitare, en fait, qui était accrochée au mur. Enfin, mon père, en riant, il m'a dit, prends cette guitare-là et désigne des fils, tu sais, des fils de pêche. Et c'est ce qu'il m'a dit au début. Donc, moi, je la prends quand même, je prends ça au sérieux. Je prends la guitare et je vais acheter des cordes. Donc, je mets des cordes là-dessus et je commence à apprendre des chansons avec justement mon ami qui avait déjà commencé avant moi à jouer de la guitare. Il m'a appris les premiers accords et tout. Ensuite, moi, je suis parti, j'ai découvert Guitar Pro et avec ça, j'ai commencé à apprendre à jouer du Metallica, des choses comme ça, les chansons que j'aimais. Et petit à petit, lui, il s'est acheté une guitare électrique. Alors, moi aussi, je voulais une guitare électrique. Et là, c'était mon frère qui s'est un peu débrouillé pour m'en trouver une pas trop chère parce qu'il était encore toujours pas sûr si j'allais continuer à jouer, quoi. Et voilà, en fait, j'ai eu ma première guitare électrique. C'était genre une imitation de Fender avec un petit combo ampli vraiment cheap. J'ai commencé à jouer là-dessus. Et petit à petit, j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui étaient un peu dans la même situation que moi, qui aimaient cette musique-là et tout. Et on a commencé à jouer ensemble. Donc, on jouait des covers, évidemment, des Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, choses comme ça. Et puis, moi, je bascule du côté obscur de la force. En fait, j'ai commencé à aimer le métal plus extrême. Alors que la plupart de mes amis à l'époque, ils étaient plus encore dans tout ce qui est heavy. Le maximum, ça serait le thrash, mais ils voulaient pas basculer vraiment vers vers l'extrême. Alors là, je rencontre d'autres personnes aussi qui étaient plus fans de black metal, de death. Et on commence à jouer. On a monté un groupe qui s'appelait Belzébuth.
Ah, carrément.
C'est toujours drôle les noms de band quand tu commences à jouer.
En premier, c'était enfin, voilà. Inferno.
Ouais, c'est ça. Donc, on commence à jouer du black et tout. On commence à avoir nos premières compos. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à Meknès, il y avait une petite école primaire où est-ce qu'il y avait une petite salle pour faire du théâtre et tout. Il y avait un monsieur là-bas qui était vraiment très ouvert à mettre un peu plus comment dire, d'activité dans sa salle. Alors, il était super intéressé à avoir des groupes de métal qui pouvaient pratiquer dans cette salle-là et justement faire des shows. Alors, on a fait notre premier concert avec Ness de métal, c'était nous, avec mes copains avec qui je jouais du heavy et aussi, ils jouaient avec nous. Donc, on a fait le premier concert, c'était une catastrophe en fait, parce que il y avait plein de choses à gérer qu'on n'a jamais gérées. Donc, c'était la première expérience, mais j'en garde quand même de bons souvenirs. Ensuite, j'ai reformé un autre groupe de black, après, qui était plus symphonique, genre style Dimmu Borgir et tout. On n'avait pas de compo, mais on faisait surtout des covers de Cradle of Filth, Marduk,
Ouais.
juste comme ça.
Ouais, comme tous les groupes quand ils démarrent, en fait, voilà, ouais.
Exactement. Et après, c'était fini et j'ai parti avec certaines personnes qui étaient dans ce groupe-là. On a parti Imperium, qui était le groupe le plus important à l'époque pour moi. C'était du thrash. Un peu à la Creator, si je pourrais dire. Et c'est là qu'on a joué au boulevard. Et ensuite, voilà, on a joué au boulevard. Puis moi, je suis parti. Je suis parti au Canada pour les études. Et voilà, c'est là que je me retrouve au Canada.
Quand tu as joué au boulevard, ne me dis pas que c'était l'année où il y a eu justement Creator.
Non,
Parce qu'ils ont
non.
joué Creator au
Oui,
boulevard. Ouais.
j'étais là, mais j'étais fan. J'ai juste regardé le show, évidemment. Mais en fait, moi, c'était l'année. Je pense que c'était l'année de Paradise Lost qu'on avait joué.
D'accord.
L'année avec. Je pense
C'est.
qu'il y avait Gojira aussi. Gojira n'était pas connu à l'époque quand on avait joué.
Gojira.
Gojira, ouais. Ouais.
Attends, il y a aussi un groupe tunisien qui avait joué à l'époque, début des années 2000, hein, c'est
Tunisien?
Melmoth.
Non, ça ne dit rien. Ouais,
Melmoth,
mais
donc,
par contre, il y
ouais,
avait
voilà. Donc,
Litsam qui était un groupe algérien qui avait joué en
Ah ouais.
2003, je pense. Ça, c'était la première fois que j'étais allé au boulevard. Là, c'était vraiment génial. C'est vraiment des très, très beaux souvenirs.
Alors, bien évidemment, tu as appelé ton groupe Belzébuth avant la fameuse histoire des anges. Attends, c'était comment il s'appelait là?
Les anges de Satan?
Les anges de Satan, ouais, l'histoire
Ouais.
de voilà des jeunes qui ont été
Arrêtez.
arrêtés et puis voilà pour accusés de satanisme alors que c'était juste des métalleux quoi.
Exact, oui. Oui, c'est ça, bon, en fait, c'était
Là, t'as
après, je
tout.
pense. Nous,
Ouais,
on a débarqué après, c'est ça.
Ah, vous avez débarqué après.
Oui, après, oui, c'était déjà fait, ça, l'histoire des arrestations, oui. Mais n'empêche qu'on a eu notre lot de problèmes aussi de notre côté, surtout à Meknès, quand les gens, ils nous regardaient habillés en cuir et tout. Tu sais, on n'y allait pas de main morte aussi, quand on est jeune, tu sais, on essaie de provoquer un peu et tout. Mais c'était quand même la galère. Tu marchais dans la rue et les gens ils t'envoyaient des insultes, mais des fois même des roches. Donc, c'était pas facile.
Ouais. Ah bah de toute façon bon c'est un petit peu partout pareil hein. Quand on sait que même au Hellfest il y a les cathos intégristes, eux aussi, font des noises. Donc, voilà. Ouais. Tiens, alors, ça commence à réagir, là. Shebarussi, Aterna Molichit, I love you guys, Musicanar. Alors, Mohamed Degeshi, salut Ashraf Loudiri, ça me fait plaisir de te voir en live streaming grâce à Kelim Larmor et j'espère vous voir sur scène en Tunisie. Keep on metal, bro. Bah oui, on espère vraiment vous voir un de ces quatre ici. Mm-hmm. Ouais. We love you so much here, guys.
Fidekewatan. C'est une chanson sur Moon God. Sur le.
Donc, Mohamed qui me corrige bien, c'était Melmoth. Voilà, c'était bien ça. Et, ah ouais, c'était en 2007. Je me disais bien. Ok. Talakh Ben Tsi, c'est du groupe. Talakh Ben Tsi, c'est du groupe Cartagot. Bonsoir, Kelly, mais bonsoir à tes invités. Bonsoir, Talakh. Merci d'être là. Et puis, Mohamed Geshi. Ah ouais, d'accord. Ils ont joué avec Moonspell à l'époque. Moonspell, Creator, Paradise Lost, au boulevard.
Ah ouais, c'était la belle époque. Ouais. C'était ouais. Tout nouveau pour nous au Maroc là, de voir tous ces artistes-là qui débarquaient. C'était vraiment génial. Ouais.
Alors, il y a Mohyeddin Rashid qui l'a aussi. Keep on the good music, guys. Salut Mohyeddin. Alors, à toi Antoine. Tiens, un chat.
Oh oui, c'est ça qui est là. Il est toujours là.
Alors toi, ça a commencé comment t'as la musique, la batterie, avant Aeternam?
En fait, avant Aeternam, la batterie, ça a commencé pour moi grâce à mon oncle. En fait, mon oncle a toujours été un batteur. Et je me souviens, quand j'étais plus jeune, lui, il était un jeune adulte aussi. Donc, il habitait dans un appartement. Donc, il ne pouvait pas avoir sa batterie chez lui. Donc, elle était chez ses parents, chez mes grands-parents. Donc, à chaque fois que j'allais visiter mes grands-parents, j'avais le drum set là, qui était prêt. Puis là, je pouvais aller tapocher là-dessus. Je pouvais m'asseoir sur le banc, puis mes pieds ne touchaient même pas aux pédales. Donc, j'ai toujours...
Ils ne touchent toujours pas aux pédales. Hein.
Je ne touche toujours pas aux pédales, je mets des blocs de bois. Mais tout ça pour dire que grâce à ça, c'est comme ça que j'ai un peu développé mon intérêt vers la batterie, en fait. Là, parce qu'elle était là, elle me regardait, elle était disponible pour que je puisse jouer dessus. Donc, autour de 12-13 ans, mes parents m'ont acheté une batterie à Noël classique. J'ai commencé à jouer à l'école, au secondaire. Au secondaire, il y avait les harmonies du secondaire. On jouait comme des pièces de musique de film, puis des trucs comme ça. Puis j'ai comme de fil en aiguille développé. Mais au début, j'écoutais plus du punk. Moi, je viens plus de l'école du punk rock, en fait. Là. Et ça a pris peut-être quelques années. Là, je dirais autour de 15-16 ans, c'est là que j'ai vraiment... tombé dans le métal. Là. Mais j'ai commencé plus avec, ironiquement, j'ai pas commencé avec les classiques comme Metallica, Maiden et compagnie. J'ai vraiment commencé avec les bandes de power metal. Moi, c'était Rhapsody, Blind Guardian, Avantasia, toutes ces bandes de Ed Guy, toutes ces bandes de power. Donc, c'est vraiment comme ça que je suis embarqué dans le métal. Puis après, moi aussi, je suis tombé plus dans le côté obscur de la force là, quand j'ai découvert le vocal Scream avec Children of Bottom. Un petit moment pour Alexis Laiho qui est décédé il y a quelques jours. Oui, donc, Children, ça a été quand même, comme beaucoup de gens, une révélation pour moi. Dans ces temps-là aussi, Enciferum, qui était plus dans le. Qui m'a amené vers un petit peu le côté plus folk là, de la musique. Enciferum, évidemment, Wintersun, le côté plus mélodique. Là. Donc, c'est un peu comme ça que, de fil en aiguille, je me suis embarqué dans le métal. Là.
Ouais. Ouais. Alors, ça réagit. Sadri Banaya qui envoie plein de cœurs et qui écrit Aeternam. Voilà, donc lui, il est en train de regarder sur YouTube. Il y a aussi Ahmed Abdelmoulay qui dit bonsoir. Bonsoir Ahmed. Alors, juste une question en fait, Ashraf, avant d'arriver à Aeternam. Tu vois, par exemple... comment tu expliques que directement dans les années 2000, au début des années 2000, les jeunes, quand ils écoutaient de la musique, ils étaient à fond Que ce soit en Tunisie ou au Maroc, hein, c'est la même chose. D'ailleurs, je suppose même en Algérie, puisque bon, il y a l'ISEM qui était aussi dans cette mouvance-là. Ils écoutaient carrément, ils sont allés directement à la musique la plus dure, quoi. Tu vois, death metal, black metal, ouais. sans passer justement par les, comment dire, les par les étapes. Ah, voilà, les étapes. Maiden, Metallica, Nirvana, puis par la suite, voilà, ou comme à notre époque, à mon époque, c'est Deep Purple, je sais pas, Led Zeppelin, et puis par la suite, on y va là directement, shtag, on va directement dans le plus dur. C'est quoi, c'est voilà. Ouais. T'as une explication là-dessus?
Bah si, en fait, je crois profondément que tu sais, dans nos pays. Comme le Maroc ou bien en Amérique du Sud, où est-ce que, en fait, la liberté n'est pas forcément la même qu'en Occident. Nous, ouais. De notre côté, je crois qu'on a un besoin de révolte qui est encore plus important, qui est encore plus justifié, en fait. La musique extrême est peut-être, selon moi, en fait, un moyen de vraiment exploser complètement, en fait, cette rage qui est enfouie en nous. Moi, en tout cas, je parle pour ma part, le métal extrême, ça a été vraiment la grande, grande rébellion interne et externe. Ça m'a permis de faire des changements fondamentaux, en fait, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de mes valeurs en tant qu'être humain. Aussi, tu sais, c'est la musique extrême, c'est pas forcément une musique qui va venir à toi sur un plateau en or. En fait, c'est une musique qui va demander de donner de soi, en fait. C'est que tu t'approches de cette musique et elle s'approche de toi, en fait. Et en faisant ça, on se sent un peu comme dans une bulle. On se sent dans une bulle, mais avec certaines personnes qui sont pas très nombreuses forcément, mais on sent qu'on appartient à quelque chose de très grand. Et de très puissant. J'ai toujours trouvé que la musique extrême avait quelque chose d'extrêmement puissant qui devient en fait une et qui contient en fait une palette de couleurs qui est pas évidente pour le commun des mortels, mais dès qu'on découvre, ça nous permet d'explorer quelque chose de vraiment super, de vraiment très très intéressant. Et surtout aussi quand on s'intéresse à tout ce qui est obscur en général, parce que c'est une musique qui s'adapte vraiment bien à mais qui est faite pour ça, en fait, qui est adaptée à toute la culture obscure, comme un film d'horreur, en fait, qui va aller piocher dans des histoires de fantômes, de satanisme, de choses comme ça. Bah, la musique extrême, et c'est le support, c'est le médium qui permet de faire exactement la même chose musicalement. Et je crois que c'est super intéressant pour des personnes comme au Maroc, en Tunisie, qui partent vraiment de zéro, qui partent d'une société qui est très rigide et qui peuvent vraiment aller à l'autre opposé totalement et exploser leur rage et leur créativité.
Alors, je vous le dis tout de suite, hein, Chevalo est un fan de Aeternam. Et donc, là, par exemple... Ah, ce qui met, il me met carrément le lien donc du The Rise of Arabia.
Voilà. Les beaux souvenirs avec cette pièce là quand même. Les vieux souvenirs, pas d'hier. On l'a écrit pendant le printemps arabe en fait cette chanson.
Ouais, c'était l'inspiration principale. C'était pendant le printemps arabe.
Je dirais que c'est possiblement notre seule pièce qui est engagé politiquement, si on veut, à un certain degré. Là. D'habitude, on écrit des pièces plus mythologiques, là, des métaphores poétiques, plus comme ça, mais celle-là, spécifiquement, elle est assez unique en son genre.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, voilà ce qu'il rajoute. Voilà, donc, je crois que c'est les paroles de cette chanson-là. Hein. Mm-hmm. Yep. Voilà. Insanity is growing in the head of humanity, crushing the arms of supremacy. The storm of chaos has now arrived.
Birro, bidam, nafdi kaya watan, je m'en rappelle.
Ouais, dis-moi.
Oui, c'est ça, en fait, je lui ai bien appris les mots principaux en arabe, plus ce chorus-là.
Ouais, ceux qu'on ne doit pas prononcer.
Ceux qu'on ne doit pas prononcer, exactement.
Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pour Antoine.
Ouais.
Alors, juste pour ne pas rater les commentaires, hein, Youssef qui dit « Hey, Ash of Blue, I wish you success for your band. »
Merci, Joseph.
Alors, il y a qui d'autre? Jonathan Wilkes, voilà, ouais, ok. Alir Gig, very good job, guys. Love your tones. Greeting from COVID Bastards.
Ah! Merci, Ali. Merci beaucoup.
Voilà, les bands qui ont un thème historique aussi, Younes Pavel, Sadri, votre musique incarne puissance et mysticisme, votre musique est exceptionnelle.
Oh, merci beaucoup.
Merci, merci.
Voilà, j'espère que vous essayez mes guitares fabriquées en Tunisie. Oui, donc Ahmed Abdelmoula qui est luthier en fait à Sfax. Nice. Voilà.
Quand on viendra en Tunisie un jour, on pourrait se rencontrer. On les essaiera avec plaisir.
Voilà, exactement. Voilà, Youssef Pavel, très cool et unique. Shebal aussi, but I want to know what Eternam meaning. Ok, on va y arriver, Sheb. Voilà, Elio est là. Connaissez
Elio, ben oui.
Connaissez Elio?
Oui, oui.
Elio.
D'accord. Ouais, les meilleurs Oriental Death Metal, j'adore.
Merci.
Voilà, Ancient Egypt égale Aeternam, Good Vibes Guy, voilà, donc tout le monde est là. Le nom du groupe, ok, bon, on va y aller. Alors justement, juste un truc là, je voulais faire une petite boutade, mais bon, ça va me donner l'occasion de le faire. Aujourd'hui, c'est un match Tunisie-Maroc.
Ah oui.
Tunisie, Maroc, Oriental Metal.
Je ne pense pas que c'est un match forcément. Emirat, c'est totalement génial. Hein.
Ben ouais. On n'est pas dans la même cour, tout à fait, tout de même.
On n'est pas du tout dans la même cour, non. Non, tout à fait. Ils sont pas dans l'extrême, nous, on est un peu plus dans l'extrême. Mais Emirat, c'est génial. Moi, je les suis depuis très, très longtemps. Et je suis vraiment fier quand je les vois vraiment grossir en tant que groupe et où est-ce qu'ils sont rendus. C'est vraiment incroyable. Et j'espère vraiment que ça va juste aller en montant, en espérant aussi pouvoir les rencontrer et voir un concert de Mirat. C'est vraiment bravo, bravo, bravo. C'est un super, super groupe.
Vous connaissez d'autres groupes tunisiens, en fait?
Moi, de mon côté, à part Mirat, je ne connais pas. Non. Ouais. C'est le seul groupe que je connais. Toi, Antoine, je sais.
D'accord.
Non, je connais Mirat, évidemment.
Oui, c'est ça.
Mais non, pas d'autres groupes tunisiens.
Il n'y a pas beaucoup de reach, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de musique maintenant, c'est très compliqué. Là, ça dépend aussi à quel point on cherche aussi à écouter de la nouvelle musique. Là. C'est vrai que, tu sais, je veux dire, c'est très compliqué de découvrir les bands très underground qui viennent de pays qui ont un peu moins de projecteurs. Mais je suis sûr qu'il y a vraiment des super groupes en Tunisie. Ben, ouais.
Alors, ce que je vous propose, vous voyez, là, on est en train de passer sur la chaîne YouTube de la Zanzan.
Oui.
Et je le dis à tout le monde, il y a une playlist avec tous les clips tunisiens, tous les clips des groupes tunisiens. Voilà. Okay. Donc, vous allez voir Metal Band from Tunisia. Vous cliquez et puis là, vous avez tout le monde, quoi. Il y a même des trucs qui ont 20 ans d'âge, quoi. Voilà.
Ah, ouais, ok. Good.
Bien, alors ce que je vous propose, c'est qu'on puisse écouter un petit morceau déjà extrait d'El Qassam. Pourquoi ne pas écouter ce titre-là, hein? Et puis on revient tout de suite après. voilà.
Super.
Allez, let's go.
Yeah.
Aternam, Aternam, nos invités dans le Zanzana Live Streaming Show, ça, oh, c'est purée, ça, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, Merva Mana Samaben, sounds hella good. Sadri Advaitam Artenam, bon, là on va revenir à l'expression, ok, donc du nom, ouais, parce que c'est parti là en. Bon, on va y arriver. Hein. Première question, ça va être le nom du groupe. I don't know that there is a new album. What the hell, my mind gonna blow up. Kelly Bramall, thank you. L'album, il est sorti en mars, Yeshihe. En mars, il est sorti.
Ça va faire un an.
Ça va faire un an déjà. Et t'es pas au courant.
En même temps que la pandémie.
Yonos qui dit, I'm discovering them. Jonathan, Jude, this guy kills... Marvin, meanwhile, I'm discovering them now. Ouais, sympathique. Bah, j'adore. C'est que si vous êtes en train de découvrir grâce à l'émission, bah, c'est génial.
Fantastique.
The Growling. Ah ouais, vraiment, c'est fantastique. The Growling Fosha. Cool. Great job. Voilà. Et c'est reparti sur le nom du groupe. Hamza Sadiq,
belle découverte. Intéressant.
Voilà, je suis vraiment très étonné. Merva Mana Sama, la pofite, ch'taromrek. Bon, c'est une expression tunisienne qui veut dire, juste pour expliquer à Antoine, c'est que tu as raté la moitié de ta vie en découvrant ça, juste en découvrant Internet juste aujourd'hui, quoi, tu vois.
Voilà. C'est vrai, on a...
Ouais, dis-moi.
C'est très difficile de reach en fait les gens facilement parce qu'il y a tellement de musique maintenant, il y a tellement de bands incroyables, ça devient beaucoup beaucoup plus difficile. Mais voilà, il faut faire des émissions comme ça pour pouvoir atteindre justement des fans potentiels et tant mieux, c'est vraiment génial.
Ouais. Voilà, exactement. Et ça me fait plaisir. Very good guys, love your tones, greeting from COVID bastards.
Merci Al.
Jonathan, will you be playing any live streaming show? I need to see you live.
Non, en fait, oui, okay. On vient d'en mettre sur notre channel YouTube. On a fait 4 pièces pour un show virtuel en Argentine. Donc, on les rend disponibles. Il y en a une qui va sortir dans les prochains jours, la dernière. Donc, sur notre channel Alors. YouTube.
Super. Hey Aman, voilà, il déchire. Là, j'ai le bir à la ralba. D'accord, le death et la culture orientale, magnifique. Voilà, donc en fait, bon, juste une parenthèse. Tout à l'heure, vous avez dit qu'entre vous et Miraf, il y a, vous n'êtes pas dans la même catégorie, mais. Quelque part, la seule chose qui vous différencie quelque part un petit peu, c'est-à-dire vous faites un petit peu de la même famille, c'est-à-dire que Miraf chante, Zéa chante avec une voix claire, ouais. Alors que dans Aternam, Ashef chante avec le growl. En fait, c'est la seule différence que je vois quelque part, quoi. Mais point de vue, c'est du métal oriental symphonique quelque part qui...
Oui, c'est du métal symphonique oriental, effectivement. Nous, on n'est pas toujours oriental, par contre. Là, des fois, on va aller chercher des sonorités qui sont asiatiques, ou des fois, on va aller chercher des sonorités plutôt indiennes, ou des fois, on fait juste du plain melodic death metal. Mais après, je veux dire, c'est vrai que évidemment, il y a une similarité parce qu'on va aller fouiner beaucoup dans les thématiques orientales. Même quand je chante clean, c'est sûr que ça va se ressembler avec ce que Zahir fait. Par contre, reste quand même que nous, la base de notre musique, c'est du death. En fait, ça reste du death. Même si on a quelques exceptions, comme par exemple Lunar Ceremony qui est sur Al-Qassam, qui est plutôt une chanson un peu mid-tempo, un peu plus à la Nirat, si on veut. Mais en règle générale, on est vraiment plus un band de death metal. Donc, c'est là que fondamentalement réside la différence entre Mirat, je dirais.
Ouais. Mm-hmm. C'est vrai que bon, Mirat, il sent un peu plus dans Ils viennent de la prog et du power, quoi, quelque part.
Voilà, aussi. C'est un peu plus accessible quand même, Nira.
Ouais. Alors, Aeternam, douce. Alors, justement, là, on est arrivé à un moment où Ashraf est, voilà, est parti donc faire ses études supérieures au Québec. Hein. Bac mathématiques, c'est ça hein.
J'ai un bac mathématiques au Maroc et je suis parti faire... En fait, j'ai détesté les maths après ça. Après, je suis parti faire des études en sciences humaines au Canada. Et puis finalement, j'ai redécouvert les maths de mon côté et la physique. Donc, je suis parti faire un bac en un bachelor, qui appelle ici. Là, c'est comme une licence, en fait, chez nous, en physique à l'Université Laval. Mais vu que j'étais étudiant étranger, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée au monde de continuer dans ce programme, alors qu'il faut faire des doctorats et plus des post-doctorats pour arriver à avoir un boulot et courir après les subventions, faire de la recherche. Alors, j'ai eu un cours d'informatique pour ingénieur à l'université et ça m'a donné l'idée de m'inscrire plutôt dans un cours dans une licence en informatique plutôt que physique. Mais j'ai gardé la physique comme passion personnelle et j'ai étudié en informatique. Donc, maintenant, c'est là-dedans que je travaille depuis maintenant 9 ans, je pense.
Voilà. Et donc, c'est à la fac que vous vous êtes rencontrés tous les deux, quoi, c'est ça?
Bah, en fait, on s'est rencontrés plus ce qu'on appelle le cégep ici au Canada. En fait, c'est comme un... Comment dire? Il appelle ça le college aussi. C'est pré-universitaire. Donc, Antoine, lui, étudiait en musique. Et moi, je faisais mes sciences humaines à l'époque, là-bas. Et puis, on était en fait sur le même étage dans les résidences étudiantes. En fait, c'est ce qui est très drôle avec Aeternam, c'est que moi, j'arrive au Canada le 9 janvier 2007. Et genre, lui, il était chez sa famille parce que c'était la période des fêtes. Et il revenait, je pense, comme le 12 janvier ou un truc comme ça. Ouais, et on se rencontre ce jour-là, genre peut-être 4 jours après que je sois arrivé au Canada, je rencontre Antoine et il me demande de rentrer dans son groupe. Parce qu'on était en train de jouer de la guitare.
On n'avait pas de chanteur, donc c'était... C'était facile.
Ouais, non, c'est ça. Donc, voilà, on se rencontre, on commence à écouter de la musique ensemble, à aller voir des concerts ensemble. Avec lui aussi, il avait un de ses amis qui s'appelle Alex Loignon, qui jouait avec lui de la guitare. En fait, on se lie d'amitié, on commence à aller voir justement des concerts et tout ça. Antoine avait déjà quelques chansons composées. Moi, j'avais une chanson que j'avais composée qui s'appelle Circle in Flame, qui était en théorie pour mon band Imperium. Et puis, en fait, c'est ça, c'est qu'on l'a un peu orientalisé finalement et s'est retrouvé sur Disciples of the Unseen. Mais c'est ça, c'est là qu'on commençait un peu à chercher une couleur à notre musique. Et le fait d'avoir un chanteur guitariste marocain justifier le fait qu'on pouvait aller explorer les thématiques plus orientales. Et Antoine, Alex, ils étaient très 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 intéressés par le projet. Alors voilà, on a commencé à écrire dans cette direction là parce qu'au début, en fait, on écrivait du mélodeth un peu plus à la scandinave. C'était ouais. Ça clashait un peu avec le fait d'avoir un chanteur qui venait du Maghreb, donc c'était plus logique qu'on fasse de la musique qui était plus orientale qu'autre chose. Donc, c'est ça, on commence à jouer ensemble, puis on composait de la musique et je laisse Antoine continuer l'histoire pour pas trop parler.
Alors, juste un truc, c'est que ça avait dit, pour moi, Aeternam et Arkane, c'est comme la grotte de Alibaba à garder au fond du cœur.
Ah, c'est joli, ça. Arkane, c'est très, très bon aussi. Ouais.
Arkane, c'est très bon, on les connaît.
Arkane, c'était une de nos inspirations à l'époque aussi, là, parmi Orphanland, Arkane, Emirat d'ailleurs aussi, parce qu'ils avaient commencé en même temps que nous, après.
Ils ont commencé début des années 2000, ils s'appelaient Ecstasy, et en fait, on va dire, voilà, ouais, 2004-2005, ça a commencé à...
C'est toujours drôle, les premiers noms de bandes que tu choisis. Belle débute, c'est parfait.
Ouais, mais moi, je considère quand même Aeternam comme un nom dans nos premiers noms. Je veux dire, à l'époque, au moment où on a choisi le nom, c'était pas encore exactement clair la musique qu'on ferait. Donc, c'est pas un nom qui est qui est nécessairement lié à la thématique du groupe. Là. C'est pas très, c'est absolument pas du tout Moyen-Orient à Eternam. Là, donc,
en fait, il y a une règle générale, si dans un groupe, dans un nom de groupe, il ne faut jamais avoir un A et un E qui se suivent.
Ouais, ça, c'est une règle. On l'a un peu échappé. Par contre, l'avantage de A et E qui se suivent, c'est qu'on est toujours les premiers dans la liste.
Oui, c'est un avantage, mais voilà, mais c'est toujours compliqué. On se fait toujours massacrer notre nom en tournée, ouais. N'importe
qui. Eternam, Aeternam, Eternum.
Ouais.
C'est quoi la vraie prononciation? Je ne sais même pas moi-même.
On ne le sait pas trop.
On le sait pas trop.
Eternum.
C'est en latin, hein. Du coup, c'est en latin. Donc, essentiellement, pourquoi on a choisi ce nom-là? Il n'y a pas vraiment de bonne histoire. C'est qu'on trouvait que ça sonnait cool et que ça lookait cool, tout simplement. Donc,
moi, j'essaie d'être poétique des fois par rapport à ce nom-là. Je dis, bon, c'est l'éternel, donc ça représente le savoir de nos anciens qui est éternel, blablabla.
Ah, c'est ça la raison.
Ouais, j'essaie d'être poétique des fois pour expliquer le nom, mais en fait, en réalité, c'était juste comme, ah, ça, c'est cool, ça look cool.
C'est cool,
mais...
ça look. On voulait un mot, ça c'était bien important aussi. On voulait un autre band en un mot. Donc, si c'était à recommencer, je ne sais pas si on prendrait celui-là, mais pour l'instant, ça nous convient.
On est pris avec.
C'est ça.
Mais en fait, le nom était là à partir du 12 janvier ou il était là avant le 12 janvier?
Un petit peu après. Ouais. Disons, ça a pris quand même quelques années, là, je dirais. Là, ben, quelques années, mettons un an avant vraiment qu'on ait solidifié l'aspect oriental de notre musique. Là. Donc, au début, comme je disais, on était plus dans le mélodette traditionnel. On a écrit plusieurs chansons qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on fait en ce moment. Là. Donc, c'est pas arrivé comme on s'appelle Eternam et on fait du death mellow oriental. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Là. C'est une espèce de... Tout est arrivé en même temps. On a induit toutes sortes de sonorités. On a essayé des trucs. On a joué plein de chansons dans nos premiers spectacles. Des chansons qui n'ont jamais existé sur des albums. Qui jamais sur des albums, ouais, The Heretic God. Une chanson comme ça, Enslaving Illusion.
mais il y a des fois, ce qui se passe, c'est qu'on récupère des riffs très anciens et c'est on vrai. Les intègre dans des nouvelles chansons.
Ça, c'est vrai. Personne ne sait ça.
Personne ne sait ça.
Donc, en voilà. fait, bon. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que quelque part, Achef, étudiant marocain, qui débarque à Québec, qui rejoint donc Antoine et un groupe qui existe déjà, et ces Canadiens de souche, hein, comme on dit, acceptent donc cette intégration, pas l'intégration de Achef, mais l'intégration de cette orientalisation.
Ça s'est fait en deux sens. Hein, d'un côté, pour nous, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je viens d'une région de campagne qui s'appelle la Beauce au Canada. C'est vraiment campagnard. Là. J'étais personnellement pas très familier avec les gens du Moyen-Orient. J'en avais jamais rencontré de toute ma vie avant de rencontrer Ash. Donc, je dirais que ça a été une collaboration. Je veux dire, Ash, lui, a immigré au Canada. Pour étudier, mais en même temps, de son point de vue, c'était qu'il voulait déménager ici pour habiter ici. Donc, d'un point de vue, je lui ai comme un peu appris à être un Canadien. Puis en même temps, il m'a appris aussi sa culture à lui, d'où il venait. Donc, je dirais que ça a été comme une espèce de bel échange au-delà de la musique. Là, tu sais, notre amitié, ça a fait en sorte que moi, je me suis ouvert sur sa culture, lui, il s'est ouvert sur la mienne. Ça l'a sans doute, il pourra confirmer, mais ça l'a sans doute aidé à s'intégrer ici, si on veut. Puis ben moi, ça m'a fait découvrir une culture que je ne connaissais pas, qu'aujourd'hui, je peux pas parler arabe, mais je peux facilement écrire de la musique orientale. Ça me vient dans les doigts à force d'en avoir fait depuis les 10 dernières années. Donc, je trouve que ça a été enrichissant sur plusieurs points de vue, là, autant humain, musical, amicalement. Là, donc, c'est une belle rencontre. Qui va au-delà du band, en fait. Là.
Tout à fait. Et cette découverte, ça t'a donné envie aussi, en tant que batteur, d'essayer d'apprendre et d'intégrer les rythmiques maghrébines, parce que bon, il y a toute une culture, toute une tradition, toute une rythmique qui est surtout, bon, quand on pense à la musique gnawa, quand on pense à, il y a toute une tradition tribale au niveau des percus.
Ouais. Bah ouais.
Au Maroc et en Afrique du Nord, qui alors est-ce que ça, tu t'es mis à écouter, tu as essayé d'intégrer ça au niveau de ton jeu, au niveau de ta composition dans Internam, comment ça s'est passé?
C'est sûr que oui, en fait, tu sais, je me rappelle des moments où ce que Ashraf me faisait écouter plein de chanteurs, chanteuses, de groupes traditionnels de chez lui, où ce que je voyais justement les gens qui jouaient du darbouka, puis toute forme de percussion comme du bindir puis des trucs comme ça. En fait, à l'époque, on était jeunes, puis on voulait avoir ces instruments-là. On avait même demandé à la mère d'Ashraf de nous en envoyer. Puis ça, je pense qu'on avait eu un bindir une fois. Puis, mais c'est sûr, j'ai fini par m'acheter moi-même un darbouka que j'ai pu trouver dans un magasin de musique ici au Québec, parce que c'est un instrument tout de même... c'est un instrument traditionnel, mais qui n'est pas obscur. Là, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui jouent du darbouka. Fait que oui, j'ai un darbouka, je possède quelques instruments de percussion. Je dirais qu'on n'a jamais poussé extrêmement loin le niveau traditionnel de la chose, ce qu'on a vraiment, mettons, récupéré des rythmiques traditionnelles au point de dire que c'est un rythme qui a un nom, mettons, comme les rythmes afro-cubains ou quelque chose comme ça, des rythmes ont des noms comme ça. Je dirais qu'on a toujours tout de même on a toujours flirté avec l'aspect traditionnel, toujours en restant aussi dans l'aspect Hollywood de la perception occidentale, si on veut, de ce qu'est la musique du Moyen-Orient aussi. Là. Donc, il y avait comme un peu cette balance-là là, entre les deux, là, je dirais, là, de oui s'y intéresser, mais sans tomber non plus comme qu'on devienne un band de world music, parce qu'il ne faut quand même pas se le cacher, le world music, c'est aussi obscur que le métal, sinon plus. Là, ça ne parle pas toujours aux gens. Les métalleux ne veulent pas nécessairement entendre une chanson traditionnelle marocaine pour... Tu sais, comme dans un album de métal. Donc, c'était toujours de trouver la balance entre jusqu'où on va porter le traditionnel pour que ça reste accessible pour les métalleux et que ça devienne aussi quand même intéressant pour nous de pousser plus loin que juste faire un album de métal ordinaire.
Alors, toi, tu me dis que tu venais de Boss, c'est ça?
Ouais.
Voilà. Apparemment, il y a 23.
Vince. Ben oui. Nice.
Chez Gérard.
Ah ouais.
Voilà. voilà, donc quoi, bon, ça fait quoi? Ça fait 10 ans déjà. 10 ans déjà d'Internam, quoi.
Plus que ça, ça fait 10 ans.
Mais déjà depuis le premier album, en fait, voilà, ouais.
Ça fait 14 ans en fait qu'on joue de la musique ensemble. 14 ans, je dirais.
Ouais.
Mais c'est très important ce qu'Antoine il a soulevé. En fait, c'est vraiment cet aspect-là de, tu sais, on veut pousser dans le côté traditionnel, mais sans pour autant qu'on devienne vraiment typé world music, là, comme il dit. C'est vraiment, on essaie d'avoir cette balance-là pour rester accessible, mais aussi, tu sais, pour que ça merge bien avec l'album. Parce que si on commence à faire des chansons qui sont un peu trop sorti du contexte de l'album, ben, ça va devenir juste trop hétérogène. Et ça, on ne veut pas. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de se limiter dans notre exploration.
Alors, Hassan Benfraj, petite question pour Ashraf. Je vous suis depuis Mongood, la vache, déjà 10 ans de cela. Et là, je te pose la question, putain de merde, comment t'as fait pour maigrir ainsi?
Ah, mais j'ai repris du poids, hein, à cause du confinement, hein. C'est dramatique. Je vais en parler. J'arrive en Amérique du Nord, je suis un gars quand même assez gourmand dans la vie, j'aime bien bouffer. En fait, dans Internam, on est tous quand même assez gourmands comme band. En tournée, c'est quand même assez catastrophique, notre consommation de fast-food. Non. Alors, ce qui arrive, c'est que je viens au Québec. Tu sais, pour nous, le fast-food au Maroc, c'est pour les gens privilégiés. Et là, moi, j'arrive ici. Bon, ça coûte pas cher, le fast-food. Donc, je me mets à... Et en plus, t'es étudiant, tu sors de chez ta mère, tu sais pas cuisiner. Donc, voilà, tu sais, tu t'achètes toujours à la cafétéria, tu vas toujours au resto et tout. Et je faisais pas de sport à l'époque. Moi, j'étais nageur avant. Et quand j'ai découvert la guitare, j'ai abandonné la natation. Mais en 2012, en fait, après Moon God, je me suis redécouvert un amour pour le sport et j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la nutrition. Donc, j'ai fait des régimes, j'ai joué énormément au foot et plus tard, j'ai fait beaucoup de boxe. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu du poids. Il y a pas de miracle, hein. Faut manger comme il faut et il faut faire du sport. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé.
Cette interlude nutritive vous est présentée par Eternal.
Voilà, exactement. Vince Roy qui te dit salut mon Antoine. Et puis, il y a Païs Hassan, guitariste tunisien, qui vous dit hello guys. Donc, revenons au dernier album, Qassam, donc qui est sorti au mois de mars, et revenons aussi au clip. Quand on voit un petit peu l'ambiance du clip, là, ça sent, c'est un petit peu le côté, c'est tout le côté voodoo. Je vais pas dire marocain parce que ça existe partout dans toute l'Afrique du Nord. Hein, c'est, on va dire berbère certainement à Mézir. Et surtout tout ce qui concerne le culte, la sorcellerie, ce genre de choses. Et on le voit avec le sang, on le voit avec l'écriture en arabe, avec une certaine encre et tout ça. C'est quoi, t'avais envie de... je suppose que c'est ton idée, hein, Jeff,
oui.
À ce niveau. J'imagine pas qu'Antoine se soit imprégné à fond dans la culture marocaine, te fréquentant pour aller jusque-là, quoi, tu vois.
À ce point-là, tout de même. Le sport m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé ça super fascinant d'apprendre tout ça. Je vais laisser H en parler, mais en effet, autant que j'aimerais bien dire que c'est mon idée, ça ne l'est pas. Ouais.
En fait, la vérité, ça s'est passé de fil en aiguille. En fait, j'étais en train d'écrire la chanson Lunar Ceremony. Je l'avais terminée. Mais quand tu finis d'écrire une chanson, là, t'es comme envahi par une drive de compo. Là, t'es comme, t'as des idées qui sortent, genre, sans arrêt. Et je voulais en profiter pour faire une autre chanson. Alors, je m'assois. J'avais déjà le petit riff du début, en fait, le truc acoustique avec l'accord, en fait, la progression d'accord. J'avais déjà ça depuis très longtemps dans les mains. Donc, je pars, en fait, la chanson comme ça et... Et bon, en fait, en même temps, je sais pas de quoi sur quoi je vais écrire. Donc, j'essaie de chercher des sujets et tout. Et je tombe sur un article, justement, sur le livre « Shams al-Ma'arif al-Kobra ». En fait, c'est un ancien livre de sorcellerie égyptien, je pense. Et bon, voilà, je m'intéresse à ça, je lis et tout. Et en même temps, j'écris. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe, des chansons comme ça. C'est que t'écris les lyrics et en même temps, t'écris les riffs. Et là, chaque chose t'inspire pour faire le reste. Et là, je commence et je me dis, ah, mais pourquoi pas écrire une chanson avec des paroles, littéralement une incantation pour invoquer un démon en arabe. Et je me suis essayé, en fait, je me suis dit, bon, voici l'incantation, je l'ai un peu, un peu peaufiné pour que ça fitte bien pour que ça rentre bien dans la rythmique de la chanson. Et j'ai commencé à faire des tests. Et là, en fait, en tant que Marocain, en fait, moi, je crois pas aux djinns et ces trucs-là, mais en même temps, il reste. J'appelle toujours ça le 1%. Le 1%, c'est quoi? C'est malgré le fait que tu crois pas à ces choses-là, mais il te reste un petit 1% là qui, bah, quand même, tu sais jamais. Là, je crois qu'on se comprend là-dessus, Kevin.
C'est clair.
Et donc, voilà, moi, je suis en train d'enregistrer chez moi, j'enregistre le refrain de la chanson, le Aqsam tu alayka ayyuha al-malik al-abyan, machin. Et là, mais je sens des souffles derrière mon dos, des trucs qui se passent. Et là, je chante et j'ai peur en même temps. Je suis comme, ah non, c'est pas vrai, là, ça existe pas, ces trucs-là. Et là, en fait, je finis la chanson. Je l'envoie. En fait, Antoine vient chez moi et je fais juste lui jouer. Et Antoine était vraiment très impressionné par la thématique, par l'ambiance qui s'en dégage. Et voilà, en fait, c'est ça, on a décidé de la garder. Et en même temps, on a appelé l'album Al-Qassam, malgré que c'était assez osé comme titre, parce que Al-Qassam, en fait, c'est aussi une organisation terroriste du Hamas.
Ouais.
Mais c'est parce qu'en français, ça s'écrit, ben, en caractère latin, ça s'écrit pareil, en fait. Al-Qassam et Al-Qassam, ça s'écrit pareil. Donc, pour moi, en fait, c'était comme évident. Oh non, c'est pas la même chose.
Ouais.
Et finalement, en fait, on s'est retrouvé quand même dans, quand tu cherches Al-Qassam, ben, tu nous trouves nous et après tu trouves Hamas.
C'est pour ça qu'on a mis l'espace aussi entre les deux pour l'occidentaliser un petit peu plus là aussi. Là.
Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, en fait, pour ce qui est de la thématique réelle, en fait, moi, ce que je voulais, c'est, je trouvais que c'était une bonne idée de faire ressortir le folklore nord-africain, parce que on dirait que c'est toujours un peu, c'est un peu humoristique de parler de notre folklore au niveau de la sorcellerie. Quand on parle de sorcellerie au Maroc, c'est toujours drôle. C'est drôle, mais en même temps, on en parle avec dégoût un peu, parce qu'on dit, tu sais, c'est des charlatans qui, tu sais, je veux dire, ils font des trucs un peu bizarres et arnaquent les gens et tout ça. Mais, tu sais, moi, je l'accepte comme folklore, même si j'y crois pas du tout, tu sais, je veux dire, c'est évident. Mais je trouvais ça, tu sais, dans la même perspective que d'utiliser un film d'horreur pour parler de choses un peu invraisemblables, bah, c'est de la même manière, en fait. C'est simplement souligner notre folklore. Là, dans le clip, on voit, il y a une femme qui vient, qui, en fait, lit l'incantation et demande quelque chose à Al-Abiyad. Lui, il sort et il lui exauce son vœu, mais en même temps, en fait, le prix à payer, c'est sa vie, en fait. Et il y a aussi une morale derrière ça, c'est qu'il y a certaines personnes, et j'en, tu sais, je veux dire, moi, dans mon passé, j'en connais des gens qui étaient prêts à tout pour arriver à leur fin et qui utilisaient beaucoup Shawada, en fait, la sorcellerie pour, même si, en fait, ils empoisonnaient des gens ou, tu sais, tu le sais, hein, comment ça se passe en Afrique du Nord.
Ah, ouais, c'est
voilà. Ça. Et en fait, moi, je voulais souligner ça sans pour autant y adhérer. Personne n'y adhère, en fait, dans le band. C'est juste vraiment, on voulait souligner ce concept, ce folklore et y faire une chanson. Et aussi l'idée de chanter en arabe growlé tout le long de la chanson, c'était un assez beau défi. Et je trouvais que ça rajoutait quelque chose d'intéressant dans l'album. Voilà.
Et finalement, c'est là on se rend compte que le fait de growler en arabe littéraire, parce que tu l'as écrit en arabe littéraire, ça, l'arabe al-fusha, ça donne.
Oui, oui, je veux dire, j'ai toujours aimé ça, faire ça, parce qu'on l'avait déjà fait dans une chanson sur Ruins of Empires. On avait un verse qui était écrit en arabe classique dans la chanson Fallen is the Simulacrum of Bell. Et ça a bien sorti, en fait, ça s'apprête bien à mon style de vocal growl. Tu sais, moi j'ai un style particulier où est-ce que je prononce vraiment beaucoup ce que je growl. C'est pas, tu sais, t'as des growls, des types de growls qui c'est plus mâché un peu. Moi c'est vraiment, tu sais, je parle vraiment clairement en growlant. Donc je me suis dit peut-être en arabe ça pourrait apporter un côté violent, un côté un peu exotique. Et puis voilà, en fait, on l'a exploité et je trouve que c'est un beau résultat, selon moi.
Ouais. Alors, il y a Vince qui dit « Album de malade, by the way. Good job, guys. »
Merci.
J'ai une question donc de Shiheb qui dit « Who is the songwriter of Aeternam and why you choose ancient Egypt civilization, gods of Egypt ?» I want to know honestly. Bah oui, il va te répondre honnêtement, t'inquiète.
Ouais, en fait, c'est moi et H, en fait, qui écrit la musique dans Aeternam, tout simplement. C'est avec quelques collaborations, des fois, de Maxime Boucher, notre bassiste. Mais principalement, c'est Ashraf puis, et moi aussi, là, je dirais, comme deuxième compositeur et arrangeur, là, souvent. Là. Donc, puis. Un peu comme Ashraf touchait tout à l'heure, nous, on n'écrit pas en groupe. Ça peut être intéressant, là, c'est qu'on écrit vraiment... Les pièces qu'on écrit, généralement, c'est des œuvres personnelles où on fait une chanson du début à la fin, comme je disais, avec les paroles en même temps. Les paroles inspirent le prochain riff inspire les prochaines paroles, et etc., etc. Donc, c'est pas, on va pas se réunir en groupe dans un local et jammer des trucs jusqu'à ce qu'on ait une chanson. C'est pas comme
on
ça.
On a déjà essayé de le faire, mais ça marche jamais vraiment. C'est
non.
Très compliqué.
C'est ça. Puis pour répondre à la question de la civilisation égyptienne antique, en fait, c'est un de nos sujets parmi tant d'autres qu'on a exploité plus dans le passé, je dirais. Chaque album a sa petite chanson sur l'Égypte, là. Malgré que la chanson égyptienne sur Al-Qassam est peut-être un petit peu plus obscure et osée que, mettons, la chanson Amunaptra qui racontait littéralement le film La Momie. Là, dans le... On était jeunes. Mais tout ça pour dire que c'est un de nos sujets particuliers parce qu'en fait, comme la fascination égyptienne depuis toutes ces années-là existe, c'est parce que c'est un peuple avec tellement de couleurs et de choses à raconter que c'est extrêmement facile d'écrire des chansons sur ce peuple-là. Donc, on finit toujours par y revenir tôt ou tard. Là, donc, Mais ça serait quand même une erreur de dire que notre groupe est influencé uniquement par la civilisation égyptienne. Là, on n'est pas comme Nile où on ne parle que de ça. On a une poignée de chansons qui parlent de l'Égypte. Là, on touche à beaucoup d'autres civilisations et beaucoup d'autres sujets que seulement l'Égypte antique.
Voilà, justement. À ce qui rajoute, Antoine, the Arabic part, is it you? Donc, la HF a bien expliqué que la partie arabe, c'est lui qui l'a écrite. Sinon, il y a Elio R, qui dit une fois parti de cette chanson, je peux pas arrêter de headbang. Voilà. Et qui dit aussi, attends. Fallen is the simulacrum of Bell.
Oui, exactement, c'est la chanson dont je parlais.
Voilà, justement. I don't think that you wrote the Arabic part. Ouais, voilà. Ça, c'est
clair. Non. Google Translate, peut-être j'aurais pu s'il y avait utilisé Google Translate.
Faudrait attention avec Google Translate.
Ah oui, ça c'est clair. Alors là, j'ai une question de Racel, en fait, qui vous demande, bon, on a bien compris qui vous suit depuis le début, pourquoi avoir abandonné les sonorités béméossiennes du début?
On ne les a pas abandonnées, en fait, il y en a toujours. Ouais. C'est vrai que Behemoth, ça fait quand même partie de notre, comment dire, un peu notre ligne de songwriting. On est des très grands fans de Behemoth, surtout la période entre Demigod, entre peut-être même Zosky Occultus et The Satanist. Peut-être The Satanist, c'est devenu un peu trop black pour moi. Moi, j'adore l'album personnellement, mais tu sais, je veux dire, c'est que ça a vraiment pris un virage. Ça reste quand même fondamental dans notre songwriting. Je veux dire, nous, on écrit un peu dans ce genre-là, je dirais. Beaucoup de riffs en trémolo. On a aussi, mon style de vocal ressemble un petit peu à Nergal. Donc, non, ça reste. Je suis pas sûr de dire qu'on a abandonné ça. Pas du tout. C'est vrai qu'on intègre beaucoup de nouvelles choses. Parce que si on continue à faire toujours les mêmes choses, on va se lasser aussi. Donc, oui, là, il y a un peu de sceptique flèche là, qui vient s'insérer un peu dans nos influences, je dirais, avec le côté symphonique qui prend de l'ampleur. D'ailleurs, avec l'idée ultime qu'un jour on enregistre avec un vrai orchestre, un album Beta Ram. Ensuite, ouais, voilà, moi, je pense pas qu'on oublie nos racines un peu béhémothiennes, comme a dit la personne.
Ouais. Ok, donc bon, bah écoutez, ce que je vous propose là, tout de suite, c'est qu'on marque une pause là sur votre chaîne YouTube. Justement, vous avez un playthrough guitare de The Bringer of Rain. On l'écoute?
Oui.
Let's go.
Yeah.
Aeternam donc en direct. Antoine, tu applaudis là, c'est ça? J'ai bien compris.
Ah oui, il applaudit comme Dumbledore.
Tiens, je voudrais en profiter pour vraiment saluer la Moroccan Metal Community. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en train de nous écouter ici, mais c'est grâce à eux que j'ai pu arriver justement jusqu'à Aeternam, H. Parce que bon, j'ai trouvé quand même sur la page, tu es quand même un peu impliqué sur les forums, sur les groupes métalleux marocains.
Oui, bien sûr. Il faut pas. Tu sais, j'ai toujours pris ça à cœur de garder un contact avec la communauté. Et justement, des fois, tu sais, je regarde si justement il y a des groupes marocains qui sortent des choses, ou moi de mon côté aussi, des fois, ou bien je partage des choses qui concernent Aeternam, ou bien je. Des fois, je fais des covers chez moi pour m'amuser et je les partage avec les gens. Donc voilà, il faut toujours garder contact avec cet entourage-là marocain et voilà.
Et la scène justement là au Maroc, est-ce qu'elle est aussi comment dire aussi active et dynamique qu'elle était à l'époque du boulevard il y a 15-20 ans?
Sincèrement, je ne saurais pas dire. Je sais que là, c'est plus évident de voir qu'il y a des groupes qui release des trucs, là. Je veux dire des chansons, des albums, des trucs comme ça. Mais à l'époque, il y avait peut-être beaucoup de fans. Moi, je voyais beaucoup de fans aller au boulevard et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de gros. Je ne sais pas si c'est encore le cas au Maroc, s'il y a des concerts, si les gens vont aller voir les concerts comme avant. Ça, je saurais pas dire.
Ouais, très bien. Au mois de mars, vous sortez donc cet album Al Qassam et bang,
Covid.
Allô.
C'est COVID.
Voilà. Ce qui est arrivé, c'est que nous, on voulait pas faire attendre nos supporters. Par rapport à justement la situation qui est arrivée, on avait une tournée de prévue avec Wild Around, qui est un groupe américain qui sont nos amis en fait. Et c'était déjà tout prévu. On partait en tournée, je pense, en mars, Antoine, ou avril.
Avril.
C'est ça. Donc, en fait, c'est ça, la tournée tombe à l'eau, mais en même temps, on voulait pas faire attendre les gens. Nous, on pensait au début que ça allait durer quoi, genre 2 mois maximum, c'est le confinement et tout deviendrait comme avant, mais finalement, non. Ah
ouais. Comme tout le monde, ouais.
Bah oui, exact.
Donc voilà, on s'est dit, bon, on va le sortir quand même, puis même si on décale la tournée, c'est pas grave, mais finalement, en fait, ça a été quand même assez dur pour nous de sortir cet album-là et de pas pouvoir le supporter en faisant de la tournée. Mais bon, c'est tel que tel. C'est tout le monde a vécu la même chose. Hein. Il y a beaucoup de bandes qui ont sorti des albums à cette période-là. Et bon, voilà, les tournées ont été annulées. Il y a des bandes qui n'ont pas vendu beaucoup à cause justement ils s'attendent à vendre beaucoup plus quand ils sont en tournée. Et c'est notre cas aussi, hein. Malgré le fait que, tu sais, je veux dire, nos supporters ont été vraiment très très impliqués, ils nous ont beaucoup supportés et on a vraiment bien rentabilisé l'album, donc ça c'est une bonne chose. Et là, we have to move on, il faut passer à autre chose et on est en train d'écrire de la musique encore, en espérant que quand on sortira le prochain, eh bien ça sera dans des conditions plus favorables, on va dire.
Mm-hmm. Ouais, vous défendrez les deux à ce moment-là.
Voilà. Oui, ouais, exact. Ouais. Alcassam va toujours exister dans notre back catalogue. Donc, l'album n'est pas mort là, dans un sens. Là. C'est juste qu'on n'aura pas malheureusement pu l'amener avec nous sur la route pour le promouvoir. Là.
Ouais, exactement. Mais bon,
voilà.
Et en fait, bon, comment est-ce que vous avez vécu cette pandémie, vous aussi? Comment est-ce que vous avez vécu cet arrêt? Alors, il paraît que ce n'est pas une pandémie, c'est une épidémie. C'est le Lancet qui a écrit ça. Dans un article qui est sorti il y a 2 jours, c'est pas une pandémie, parce qu'une pandémie, c'est comme pour la peste, disent-ils. C'est-à-dire que tu es là, le lendemain, ça va, tu es mort. Badshar, hein, comme on dit. Et alors que là, c'est une épidémie, c'est pas une pandémie. Donc, comment est-ce que vous avez vécu cette épidémie?
En fait, nous, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à travailler de la maison. Et je suis 100% fonctionnel de la maison, donc je fais partie des chanceux qui n'ont pas été tellement affectés professionnellement par à part avec le band de musique, évidemment, avec Aeternam, comme on vient de discuter, ça a fait mal, mais au niveau des autres aspects de ma vie, disons que en ce qui me concerne, j'ai été chanceux d'être pas tellement affecté par l'épidémie.
Ouais.
Donc ouais, voilà. Ouais, mais j'ai quand même hâte que ça finisse pour revoir des gens, là.
Bah, c'est clair. Ouais.
Moi aussi, de mon côté, en fait, c'est ça. Je suis un peu dans la même situation qu'Antoine. Je fais du génie logiciel chez nous. Donc, voilà, je me connecte en VPN et je suis fonctionnel. À part ça, je dirais, c'est sûr que moi, je voulais rentrer au Maroc, voir la famille un peu et tout, mais ça n'a pas pu se passer. Et évidemment, au niveau du band, c'est surtout là que ça a tapé vraiment fort. Hein. C'est là que... Alors, en fait, aussi, des fois, tu sais, se rencontrer pour écrire, tu sais, genre pour peaufiner les chansons et tout. T'es là, en ce moment, nous, on est en zone rouge à Québec avec un couvre-feu et tout. C'est plus compliqué pour qu'on se voie et finaliser certaines chansons qu'on a. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est là que c'est un peu plus dur. Mais bon, voilà, on n'y peut rien.
Voilà. Qu'est-ce qui est en train de s'écrire? Il y a Kohacher qui dit restez vous-même surtout. Très bon, technique, lourd, rapide et mélodique à la fois. Donc ça, c'était pendant le clip. Hein. Il y a aussi Rassen qui dit comment ça, The Satanist, c'était trop black. Ashraf, tu portes un t-shirt de Six Section, mon vieux. D'ailleurs, c'est quoi vos autres influences? Votre influence? Il rajoute. Ah, attends. Désolé pour les 100 000 questions, KVA, c'est juste que j'adore le groupe. Bah oui, écoute. José Marmeri, I'm in love with this band since a Disciple of the Unseen. You rock, guys. Merci, José. Merva, excellente découverte. Je vous remercie. De rien, Merva, on est là pour ça. Et Ralph qui dit excellent, les mecs. Donc, les influences.
Bah, c'est en fait le black fait partie des influences d'Eternam quand même. C'est juste que quand je parlais de Behemoth, c'est la partie Behemoth d'Eternam. Nous, on s'inspire pas forcément du côté black, on va s'inspirer plus dans le riffing plutôt death de cette période-là, Demigod, The Apostasy, The Evangelion. Par contre, oui, ben, nos influences sont vraiment très diverses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une certaine forme d'hétérogénéité dans notre musique. On va aller chercher des fois des rythmiques plutôt trashy, des fois on va aller chercher plutôt des chorus power metal. On a beaucoup de riffs en tremolo aussi, là, ça va peut-être aller chercher dans tout ce qui est black, vraiment un peu dissection. Tu sais, il y a beaucoup de iced earth aussi, des fois dans l'internat, quand on écoute une chanson comme Coronation of Seth. Il y a, tu sais, je veux dire, quand on entend, par exemple, une chanson comme Goddess of Master, qui contient beaucoup d'éléments black aussi, genre Dino Borgir. Il y en a vraiment, vraiment des influences très diverses. Des fois, on ne sait même pas d'où ça vient, en fait. C'est qu'on écoute tellement de bands différents que, tu sais, on arrive, on écrit un riff, puis là, on a la liste plus tard. Ah ouais, ouais, c'est vrai, ça va ressembler à tel, tel, tel groupe. Mais sur le coup, on n'est pas genre, OK, là, je vais faire un riff à la Dino Borgir. C'est pas comme ça que ça se passe.
Ouais. Ouais, bah, ça c'est clair, hein. C'est pas. Et puis bon, vous n'êtes pas là pour faire du copier-coller, mais justement pour créer le son à Ternam et puis le style à Ternam. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le playthrough de tout à l'heure, c'est qu'on sent que même le riff, quelque part, il est oriental.
Oui, oui, exact. Mélodiquement, ça reste oriental. C'est juste que le layer qui est derrière va toujours. Ouais. T'sais, nous, on va rester très métal dans notre structure de chanson. Mais voilà, nous on enrobe les chansons avec cette couleur orientale. C'est ça qui tisse les chansons ensemble. Même si en théorie, t'enlèves la partie orientale de toutes ces chansons là, ça ferait un album ultra hétérogène qui se tient pas, en fait. C'est juste le fait qu'on nous on les lie avec cet aspect mélodique, cette atmosphère qui est orientale, et ça fait en sorte que ça devient un peu plus cohérent. Mais là, on s'est quand même, si je peux me permettre, on s'est quand même un peu mis comme règle pour les prochains albums d'être un peu moins hétérogène et d'être un peu plus cohérent dans nos albums pour avoir une certaine homogénéité, pour que ça se tienne encore mieux qu'avant.
Ah, il faut évoluer aussi, c'est un peu ce qu'on se dit, tu sais, je veux dire, ce qu'on a fait, on l'a déjà fait, donc on essaie peut-être d'expérimenter avec d'autres types de structures d'albums, si je peux dire, que ce qu'on a déjà fait, donc à suivre.
En fait, c'est quoi? C'est une réflexion personnelle, en discutant, un brainstorming entre vous, ou c'est aussi des retours de chroniques, de critiques, de fans?
Ah, pas du tout. Les reviews pour nos albums, sincèrement, ont toujours été vraiment, vraiment très bonnes. C'est pas du tout ça, c'est vraiment des réflexions que nous on se pose. C'est du brainstorming, comme tu dis. C'est juste qu'on, nous personnellement, on trouve que des fois on écrit des chansons qui sont un petit peu trop loin l'une de l'autre, et on aimerait juste avoir une meilleure cohésion entre les chansons pour les prochains albums. Et aussi en aspect général, tu sais, on a beaucoup de, tu sais, on parle beaucoup de dans l'internet de structure pop. Et on a beaucoup de chansons qui sont en structure pop. Par exemple, Alcassane, c'est une structure pop. Ça reste, tu sais, intro, verse, chorus, bridge, tu sais. Et là, nous, on essaie d'aborder le prochain album avec une vision plus, comment dire, un peu plus progressive, je dirais. Sans pour autant perdre l'essence même d'Eternam. Évidemment, ça reste, le style reste là. C'est juste qu'on va essayer de chercher, plutôt des chansons plus condensées, plus grosses aussi, avec une plus grande durée. Donc voilà, c'est juste l'approche qui va être différente, mais en fait, le fondamental reste le même.
D'accord. Alors, Koacher qui dit Belt Thrower.
Belt Thrower.
Chef qui dit bonne continuation et bon courage, Heredes. We want to see you soon here in Tunisia. After Corona, Inch'Allah, Aeternam, you are the best monsters. Et Hello qui dit, quelle est la chanson que vous aimez le plus jouer en show?
Moi, c'est définitivement Fallen is the Simulacrum of Bell. Extrêmement groovy, bon tempo. bon groove pour faire brasser la tête, un peu de blast beat, ça contient un peu tout. Un petit moment de répit au milieu de la chanson pendant que Ash il fait ses histoires. Moi j'aime bien, ouais, j'aime bien jouer Fallen.
Ouais, j'aime bien aussi Fallen, je pense. Sincèrement, je pense que la chanson que j'aime le plus jouer, c'est Damascus Gate. Parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Quand on commence un show avec Damascus Gate, on a toujours une réaction du public qui est très favorable. Donc, en fait, tout ce qui se crée comme ambiance quand on joue cette chanson-là, ça me plaît. J'aime aussi le fait que, tu sais, il y a du beau vocal clean, très énergétique dedans. Et un beau solo aussi, là, qui est un peu rapide quand même. Tu sais, c'est une chanson qui a beaucoup d'énergie. Donc, je dirais Damascus Gate pour moi.
Ashraf, quelle est la chanson que tu aimes le moins jouer en show?
Attends un petit peu. Ben, le moins joué, c'est difficile à dire.
Moi, c'est Alcassam.
Trop rapide.
Trop rapide. Ouais. Trop rapide, c'est juste trop rapide comme chanson.
Bah, l'Honor Ceremony, c'est une bonne chanson, mais j'aime moins la jouer en live parce qu'elle est lente. Et ouais, c'est faut comme...
C'est
mid-tempo. T'arrives en show, en fait, t'as toujours envie de jouer plus vite que le tempo, en fait. Mais,
ouais.
Et là, t'as genre l'Honor qui arrive, on dirait que ça te descend un peu. Là. Mais c'est une bonne chanson. Je dis pas que c'est une mauvaise chanson, c'est juste qu'en live, c'est peut-être un peu moins la chanson que je préfère jouer.
Alors, une question, en promenant un petit peu sur votre Instagram, j'ai vu que Maxime est parti il y a moins d'un mois, quoi. Déjà, c'est vraiment très très récent. Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
En fait, Max, il a pris un chemin différent de vie, si je peux me permettre. Là. Il a tout simplement décidé de mettre ses énergies et ses efforts ailleurs que dans un groupe de musique. Donc, il est maintenant rendu courtier immobilier. Donc, on est vraiment fiers de lui. On lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouveaux projets. C'est juste que c'est un point, je pense que c'est purement une question d'intérêt, de futur, comment qu'il voyait le futur avec le band, le futur avec sa vie. Ça marchait plus, là. Donc, on est encore en très bon terme avec lui, là. C'est pas une dispute ou quoi que ce soit, là. C'est purement les chemins qui se séparent. Puis, nous, on continue avec notre nouveau guitariste, en fait, qui s'appelle Mathieu Roy-Lortie. Qui est un gars qu'on connaît depuis quelques années déjà. J'ai eu la chance de jouer avec lui, moi, dans un autre projet. Il avait remplacé dans un autre de mes groupes. Puis c'est un guitariste incroyable, musicien incroyable, une personne vraiment gentille. Donc, on est extrêmement content de l'avoir avec nous là, pour le prochain album. Là. Attendez-vous à des belles parts de Git.
Alors, j'aimerais parler un petit peu maintenant de la scène, justement, au Canada. C'est une scène qui est en train de bouger à fond la caisse ces derniers temps. Je sais pas, moi, un nom qui me revient à la tête, c'est Cobra de Lotus, par exemple. Ou voilà, il y a beaucoup de très, très grands noms. Ouais, il y a beaucoup de noms qui sont en train de sortir, mais... Est-ce qu'il y a une scène entre vous, entre les groupes? Est-ce qu'il y a une espèce de solidarité entre Québécois ou entre Canadiens? Est-ce que vous partagez quelque chose? Comment ça se passe en fait entre vous? Ou c'est chacun pour soi, quoi?
Ah, je dirais qu'au début, dans les années 2010, c'était beaucoup plus le cas. C'était beaucoup plus solidaire, je dirais. Bah de notre, tu sais, nous on a une perspective, c'est peut-être que on a une perception, je veux dire, peut-être que ça se passe pas comme ça ailleurs, tu sais, peut-être à Montréal c'est différent et tout là, mais je sais que à l'époque en 2010, tu sais, il y avait beaucoup plus d'entraide, on faisait des shows ensemble, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, la scène ici était beaucoup plus grouillante là, à Québec, et maintenant je dirais que ça c'est quand même assez mort. Malheureusement pour ce qui est du métal, pas assez mort. Je veux dire, c'est pas mort, mais c'est pas autant, loin d'être autant que dans les années 2010. Mm-hmm. Je Quoi, oui, il y a une scène. Il y a une scène incroyable au Canada, mais le Canada, c'est grand. Hein. C'est dès que tu changes de province, c'est totalement presque un autre pays. Hein. Tu vas en Alberta, là, tu parlais de Cobra and the Lotus. Là, tu sais, c'est en Alberta. Tu sais, il y a Unleash the Archers aussi. Je pense dans l'Ouest, je pense Vancouver. Après, tu as la gang de Montréal. Tu as Beneath the Massacre. Tu as aussi The Agonist. Exactement. Donc, tu sais, oui, il y a des. Évidemment, il y a des groupes, mais tu sais, je dirais plus que c'est chacun joue pour soi. Il y a moins d'entraide ici, dernièrement, je dirais.
Ouais. C'est quoi? C'est une question de distance? C'est une question.
Je crois que c'est venu avec l'ère des réseaux sociaux en même temps. Je sais pas. On se voit moins, on fait moins de choses ensemble. Là, les tournées et tout, quand tu arrives à un certain moment dans ta carrière de musicien, tout ce qui est tournée et tout ça, ça passe par des agences. Et dans les agences, ils vont pas mettre des Canadiens forcément ensemble. Tu sais, nous, on va jouer avec des groupes qui viennent de partout. Là, on a fait une tournée avec Nervosa du Brésil, Survive du Japon, Venom Inc. d'Angleterre, Suffocation États-Unis, tu sais, Orphanland, Israël. Donc voilà, c'est qu'on n'a pas, on fait pas vraiment de tournée ensemble avec des groupes canadiens par exemple. Donc c'est probablement de notre perception pour ça qu'on voit ça un peu plus chacun pour soi.
Il va falloir créer un boulevard, le boulevard de Montréal ou le boulevard de Québec.
Ça existe en fait, c'est le Heavy Montréal, c'est un super gros festival qui se passe à Montréal. Mais pourtant, nous, on n'a jamais eu la chance de jouer dans ce festival-là. Donc, peut-être éventuellement, on espère dans les prochaines années quand ce sera de retour.
Ouais.
Mmh. Ouais. Sinon, j'ai remarqué que... au début, vous étiez signé chez Metal Blade. Là, d'ailleurs, c'est la question de Racine. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Metal Blade Records? C'est-à-dire que vous étiez, puis là, tout d'un coup, quand on voit vos albums, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en mode autoproduction.
Ouais, en fait, depuis Ruins of Empires, en fait, on a sorti nos albums autoproduits. Ce qui s'est passé avec Metal Blade, en fait, c'est très, très simple. Au début, on a sorti notre premier album qui a eu quand même un effet surprise chez bien des gens qui on est sorti un peu de nulle part, si on veut. Donc, Metal Blade Records ont démontré de l'intérêt pour notre groupe. On a signé notre album avec eux. Et en fait, comme un label, c'est une compagnie qui cherche à faire du profit, ce qui est tout à fait normal. Et la manière pour faire des profits avec un groupe, c'est faire des tournées. Puis quand on était plus jeune, en fait, la situation au moment où on était à l'école, comme on vous a raconté en début d'émission, Ashraf qui venait d'arriver du Maroc dans un nouveau pays comme immigrant, en fait, lui, c'était purement une question de visa. Et si Ashraf décidait d'abandonner l'école pour partir en tournée à travers le monde, en fait, il ne pouvait plus étudier au Canada. Donc, ça mettait un peu sa vie, ça compromettait ses choix de vie, genre drastiquement. Donc, c'était pas vraiment une option pour nous de partir en tournée à travers le monde à cette époque-là. Donc, c'est pour ça qu'on a dû terminer notre relation avec Metal Blade, parce que la vision d'un band de Metal Blade, c'est un band qui fait des tournées, qui sort des albums, qui entretient un peu ses fans comme ça. Puis nous, c'était impossible pour nous, à cette époque, de faire des tournées. Donc voilà, c'est uniquement pour ça qu'on n'est plus sur Metal Blade, en fait, là.
Ouais, on n'a pas un passeport facile, hein, nous autres d'Afrique du Nord.
Ouais, au début, c'était ça, mais c'est dommage parce qu'en fait, ça a duré pas très longtemps. En fait, en 2012, là, j'étais devenu résident permanent et ça aurait été. C'est 2 ans après, en fait, on l'avait assez spécifié, je pense, aussi au moment de la signature, que sur le coup, on ne sera pas vraiment disponible pour faire de la tournée, mais je pense que. Metal Blade n'était pas intéressé à attendre forcément. T'sais, vu qu'il y avait un hype qui a été créé autour de cet album-là, fallait vraiment frapper fort. Et nous, on n'était pas disponible pour frapper fort à cette période-là. Mais bon, it is what it is, comme on dit. Puis, t'sais, on n'est pas forcément mal non plus en tant qu'indépendant. T'sais, quand t'es dans un, surtout en ce moment, t'sais, genre la pertinence d'un label est assez questionnée aujourd'hui parce qu'on est capable quand même de se produire nous-mêmes. On est capable de vendre avec des plateformes nous-mêmes. C'est tant et autant que tu as des collaborations avec des agences de booking. C'est ça qui est le plus important. Malgré qu'un label, tu sais, on peut pas dire que c'est pas relevant du tout, au contraire, mais c'est juste beaucoup moins qu'avant. C'est sûr que là, c'est, si tu veux jouer dans, au Summer Breeze ou à Wacken ou des choses comme ça, tu sais, faut quand même être sur un label, un major label pour avoir une chance de parce que ça se passe avec des contacts, hein. C'est comme ça que se passe. Donc, voilà. Et donc, ça reste quand même intéressant pour nous d'avoir un deal avec un major label, mais on est aussi très capable de faire sans. C'est juste qu'on va avoir moins d'opportunités de jouer dans des festivals en Europe. Voilà.
À moins que de taper très fort et puis en étant indépendant, arriver à avoir le tube, le hit qui va passer un petit peu partout et qui va les obliger donc quelque part à changer leur considération et leur méthode.
Oui, voilà. C'est ça. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, là, tu sais, il y a tellement de musique, il y a tellement de talent. Maintenant, c'est très, très difficile de se démarquer. Donc, chacun fait son bonhomme de chemin. Hein, puis, tu sais, c'est tel que tel. Hein. On a nos chances. On peut pas dire qu'on a rien fait. On a fait le 70,000 Tons deux fois. On a fait deux grosses tournées. Et on avait une tournée de bouquet. Et là, sûrement, quand les choses vont revenir à la normale, on va refaire des tournées avec notre agence qui est Flaming Arts Agency. Donc, voilà, on a quelques opportunités. C'est sûr qu'on n'a pas les meilleures opportunités au monde, mais on continue à travailler fort et en espérant, à un moment donné, créer un hype considérable pour attirer l'attention d'un label ou justement de simplement des festivals là, qui s'intéressent à notre musique et qui nous invitent comme 70,000 Tons ont déjà fait.
Ça doit être un truc de fou, ça, 70,000 Tons. La croisière, métal, ça, c'est un truc que je rêve de faire, quoi, carrément.
Je voudrais bien te dire, ah, c'est pas si cool que ça. En fait, il y a des défauts, mais il n'y a aucun défaut à ce festival-là. C'est un rêve de A à Z. Tu vis 5 jours sur un bateau, quelque chose qui est complètement cinglé. Je te conseille à 100% d'y aller sans réfléchir. C'est une des meilleures expériences de vie que tu peux vivre.
Absolument.
Deux problèmes, avoir l'accréditation et puis avoir le visa. Donc, mais bon, on va essayer d'y bosser. Et puis, bon, peut-être que d'ici là, va falloir se faire vacciner, quoi. Donc, on verra. Mais c'est clair que c'est un truc de fou, c'est clair, quoi.
Ah, c'est incroyable. Tu sais, je te donne juste un exemple. Tu sais, t'es là, t'es en train de bouffer dans un buffet, de la bouffe qui est absolument incroyable.
Ah, c'est bon.
Et en même temps, tu te dis, bon, est-ce que je vais voir Septic Flesh ou est-ce que je vais voir Rhapsody? Je vais aller voir le début de Septic Flesh, puis ensuite, je vais aller voir la fin de Rhapsody. Tu commences à te poser des questions comme ça, mais en même temps, genre, tu te balades et là, t'as, je sais pas, moi, Fabio Leon qui est en train de fumer une clope dans le casino. Là, tu vas le voir, tu lui parles et il chill. T'sais. Donc, toutes ces choses-là, c'est un peu incroyable. C'est une sacrée expérience.
Et puis bon, bien sûr, les fans et tout, qui sont là et qui...
Oui, effectivement. Et pour nous, ça a été une sacrée expérience et en même temps une opportunité parce qu'on s'est créé une fan base américaine. Parce que la majorité des gens qui viennent sur le bateau, c'est des Américains. Et nous, on avait fait notre premier 70,000 Tons. On avait eu vraiment beaucoup de gens qui ont aimé ce qu'on avait fait sur le bateau. Et quand on a fait la tournée avec Orphanland tout de suite après en mai, on avait beaucoup de gens qui venaient, qui nous avaient déjà vus du bateau et qui sont venus nous voir pendant la tournée. Et de bouche à oreille, on s'est créé une petite fan base quand même aux États-Unis, ce qui était vraiment vraiment super pour nous.
Ouais. Il y a Jonathan qui dit comme play Bloodstock si vous pouvez.
Bah ouais. On aimerait bien. Mais il faut écrire à Bloodstock, on veut Eternal parce que nous on n'a pas la possibilité de choisir où on joue, hein. Si les gens appellent écrivent dans les réseaux sociaux à Bloodstock qu'ils veulent Eternal, mais évidemment nous on est très très prêt à jouer à Bloodstock.
Ça marche comme ça?
Ah oui, oui.
Ça peut fonctionner.
Oui, absolument. Oui, c'est comme ça fonctionne. Il faut juste caller le band. Voilà.
Ouais. Cheb qui rajoute, qu'est-ce qu'il dit? Les fans tunisiens et tunisiennes les aiment la gifts, enfin, afternam, like t-shirt, méniche gourmand, Rani. Yeah,
ouais. On envoie notre merch dans le monde entier. Des fois, ça arrive pas, malheureusement, comme au Brésil, on a de la difficulté des fois. Aussi en Russie, des fois les colis s'égarent, mais. On n'a jamais envoyé directement en Afrique du Nord, je pense. Donc, faudrait voir là, mais normalement, ça devrait bien se passer, en théorie.
Ouais.
Inch'Allah. Ouais, exactement. Bon, alors maintenant, c'est quoi les objectifs? Qu'est-ce que vous allez faire là?
Écrire un nouvel album. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait, en ce moment. C'est sûr qu'on promet pas de date de release, le temps qu'on est encore en pandémie/épidémie, puis que le monde entier est sur stop, on va pas faire l'erreur de ressortir un album pour risquer encore de pas pouvoir le promouvoir, mais on travaille fort sur de la nouvelle musique, puis c'est ça, c'est on continue, on regarde en avant.
Ce qu'il faut faire, exactement.
C'est ça, exactement, là, en ce moment, on écrit de la nouvelle musique, on essaie de... On essaie d'explorer de nouvelles choses. On essaie aussi d'approcher l'enregistrement de l'album d'une différente manière, de voir avec qui on peut collaborer et tout. Donc, on est dans ce processus-là. Et comme disait Antoine, on va quand même attendre, même si l'album est prêt. Quand il sera prêt, il ne l'est pas actuellement. Et quand il sera, on va quand même attendre de voir si justement un label va être... intéressé à le sortir ou bien on le sort nous-mêmes et quel timing qui va être le meilleur pour nous. Donc voilà.
Ouais, exactement. Oui, ça, faut calculer tout ça. Et d'ailleurs, il y a une autre qui vous dit et pour le boulevard.
C'est la même chose. Vous devez leur écrire. On va venir. C'est sûr qu'on y sera si on est invité.
Non, on joue n'importe où. Tant qu'on nous appelle pour jouer, on va venir.
Tu sais, il faut faire le Maghreb Tour, c'est-à-dire le boulevard au Maroc, je ne sais pas s'il y a encore le festival à Annaba en Algérie, venir jouer en Tunisie et terminer avec un concert à Marseille. Ouais, parce que Marseille, c'est le Maghreb.
Marseille, c'est le Maghreb.
Quoique, hein, Montréal aussi, un petit peu, là. Beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Marocains.
Comme disait un humoriste ici chez nous, Sugar Sammy, il disait que la France, c'était son pays arabe préféré.
Ouais. Exactement. Mais ouais, écoutez, merci beaucoup les gars.
Merci beaucoup.
C'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté.
Merci de nous avoir invités.
Voilà. Et puis bon, ce qui fait plaisir moi personnellement, c'est que aussi il y a des gens qui vous ont découvert grâce à l'émission et c'est l'objectif.
C'est super.
Voilà. Et puis donc on espère vraiment vous voir. Que ce soit au Maroc ou en Tunisie, mais vraiment, au moins si je joue au Maroc, on fait le déplacement, quoi, tu vois.
Bah oui.
Entre Marocain et Tunisien, il n'y a pas de visa, donc c'est bien.
Ah oui, bah oui, ce serait génial de se rencontrer en personne. Et comme je t'ai dit, on est très ouvert à jouer au Maghreb tant et autant que là, il y a des festivals comme le Boulevard et tout, là, qui nous appellent qui nous invitent pour jouer. Donc, c'est un rêve pour moi personnellement de rejouer au Maroc en espérant que ça puisse se réaliser.
Ouais, Inch'Allah, comme on dit. Oui, oui. Et d'ailleurs, regarde, il y a Younous qui dit « Yes, Maghreb Tour
!» Ah, voilà, oui.
Exactement. Ouais, et il y a Kohacher qui dit « Mahlehem !» Mahlehem, c'est-à-dire je ne sais pas si c'est le même sens au Maroc, parce que des fois, il y a des mots tunisiens qui, au Maroc, deviennent un peu bizarres. Hein, et
je sais.
Tournure carrément.
Mahlehem.
Mahlehem, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Voilà, c'est le terme. Voilà.
Surtout Antoine.
Surtout mon chat, il n'est pas là, mais mon chat, il est très, très mignon.
Merci beaucoup. Donc, ça a été un plaisir. Et puis, merci d'avoir accepté. Et puis, bonne continuation et à bientôt.
À bientôt.
Salut.
Merci. Bye.
Au revoir.
Zanzana, l'émission métal.